Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle à Mélomanie. Bienvenue à tous ceux qui sont pour la première fois à l'écoute du magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. La musique classique et l'opéra sont encore au menu de cette émission, avec un programme très dense, que ce soit en ce qui concerne la semaine dernière ou pour celle qui s'annonce. Nous allons bien sûr présenter et commenter toute l'actualité musicale passée et à venir. Deux mélomaniaques vont m'assister dans cette tâche, mes camarades Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31, les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et puis nous avons aussi le privilège, encore une fois, d'avoir une invitée d'honneur pour ce numéro, Emmanuelle Sirat, fondatrice et directrice artistique du festival Musique au Palais, dont la troisième édition a lieu le week-end des 25 et 26 novembre à Toulouse, au très beau Palais Niel. Bienvenue à tous les trois et merci d'être à mes côtés dans ce studio. Dans l'immédiat, nous allons revenir sur les événements musicaux de la semaine dernière pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Et la semaine dernière s'est déroulé le 9e concours d'interprétation de la Mélodie française. Nous l'avions annoncé et longuement présenté lors de la venue dans cette émission de Jean-Jacques Cuben, son directeur artistique. C'était il y a 2 semaines. J'ai pu assister à la finale qui a eu lieu dimanche à Saint-Pierre-des-Cuisines devant un jury présidé par la compositrice Graciane Finzi. Ils étaient 18 candidats sur la ligne de départ au début du concours. Et après la phase des éliminatoires et les demi-finales, il en restait encore 10 pour la finale qui s'est déroulée en 2 temps. Chaque finaliste a chanté une première fois 2 mélodies à 17h avant de revenir à 20h pour en interpréter 3 autres. Il y a eu beaucoup de pièces de Forêt et de Déodat Sévra, je dois dire, ce qui s'explique compte tenu du fait qu'il y a aussi un prix décerné pour des interprétations d'œuvres de ces 2 compositeurs. Et puis il y avait aussi pas mal d'œuvres de Francis Poulenc et Reynaldo Hahn, également des compositeurs contemporains comme Michel Decoust et Graciane Finzi, qui étaient tous deux présents dans la salle. J'ai entendu quelque chose de très étonnant, des textes de Roland Topor intitulés « Recette cannibale », mis en musique par un compositeur actuel qui s'appelle Vincent Bouchot. C'était assez iconoclaste, vous vous en doutez, et chanté avec beaucoup de culot et d'humour par la jeune soprano Louise Leterme. Tous les finalistes étaient français, à l'exception de la mezzo-soprano japonaise Yukawa Ayako, qui d'ailleurs avait une fort belle voix, qui prononçait plutôt bien le français. Et je dois dire que, en parlant de ça, nonobstant les réelles et parfois grandes qualités vocales de la plupart des candidats, c'est souvent l'addiction qui, hélas, laissait un peu à désirer. C'est toujours embêtant lorsqu'il s'agit de chanter de beaux poèmes français. Cela dit, il n'y a pas que ça qui entre en ligne de compte. Alors je vais vous donner les critères selon lesquels les candidats étaient jugés. Il y avait la technique vocale, le phrasé, la compréhension du texte, la musicalité, la souplesse. Et puis bon, moi j'ajouterais peut-être aussi l'expressivité. J'ai déjà parlé de la diction. Il faut réunir tout ça de préférence, ce qui m'amène à vous parler du palmarès du concours sur les 10 finalistes. Il y avait un baryton, 3 ténors, une mezzo et 5 sopranes. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le baryton qui gagna. Il s'appelle Florent Carrère et il était très bien accompagné par la pianiste Chloé Elasmar. Il a chanté surtout des mélodies de Francis Poulenc, ce qui lui a valu, outre le Grand Prix Paul de Rennes, le prix Francis Poulenc. Belle voix de baryton, profonde et ample. Bonne diction dans l'ensemble, il faut le souligner. Et surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait une véritable présence sur scène qui pourrait l'amener, je pense, à faire une belle carrière. Je crois qu'il faudra le suivre, ce garçon. Le premier prix a été attribué au ténor Bastien Rimondi, très bien accompagné lui aussi par le pianiste Timothée Udrisier. Là, on avait affaire à une jolie voix de ténor avec un timbre très clair et une bonne prononciation tout à fait intelligible. Lui, Bastien Rimondi, il a chanté du Forêt, du Reynaldo Hahn et du Michel Decoust. Bon, je ne vais pas vous citer tout le palmarès, seulement ajouter que le prix Gabriel Forêt Déodat Sévrac a été remis au ténor Kailig Baucher et que le prix Amadeus Piano, qui récompensait le meilleur pianiste accompagné, a été remis à Jean-Michel Kim, qui, il est vrai, a été très brillant. Me concernant, j'ai trouvé que le niveau général des finalistes était excellent. C'est une très belle manifestation qui, moi, m'a donné envie de me replonger dans l'univers de la Mélodie française, et ce n'est pas le moindre des mérites de ce concours. Alors, je crois, Robert Pénavert, que vous vouliez nous parler d'une ancienne lauréate de ce concours, il y a quelques années, qui va bientôt se produire en récital au Théâtre du Capitole.
Voilà, exactement. Ce que l'on constate, c'est qu'au travers de ce concours qui est dédié à la mélodie, des voix d'opéra se font jour. Nous parlions il y a quelque temps à ce micro d'Anaïs Constant, de Gaël Arquez. Et puis, au Capitole, pour les reprises de la Rondinée, nous avons la cantatrice française Norma Naoun, qui a 31 ans à peine, hein, et qui commence à entamer, mais vraiment, une carrière internationale avec des rôles très importants, et qui va donner, dans le cas des Midi du Capitole, vous savez, cette série de récitals qui est extrêmement courue au théâtre du Capitole, et qui va donner donc un récital. Nous en parlerons plus complètement la semaine prochaine.
Oui, parce que ce récital a lieu le 23 novembre.
23 novembre, oui.
Donc on aura le temps d'en parler lors de notre prochain numéro. Eh bien maintenant, on va remonter un peu dans le temps en quittant la Mélodie Française pour investir la période baroque avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse qui donnait mercredi et jeudi à l'Escale de Tournefeuille les deux premiers concerts de son programme du mois de novembre. Il y en a encore deux autres à Saint-Pierre-des-Cuisines les jeudis 16 et vendredi 17 novembre à 20h30. Ce programme est intitulé « Marin Marais, la viole de gambe » et c'est l'excellente Anne Gourier qui tient la viole pour ses concerts. Les autres solistes étaient Eva Del Campo Cassé au continuo et puis évidemment Gilles Colliard au violon, au programme Marin Marais bien sûr, mais aussi Jean-Ferry Rebel, le Chevalier de Saint-Jean, Antoine Forqueray, Giuseppe Tartini et Antonio Vivaldi. Tous ces maîtres et petits maîtres français et italiens ont exercé leur art entre les fins du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors ce programme en fait avait pour but de mettre en miroir les musiques françaises et italiennes de cette période, la viole de gambe étant encore très en vogue en France alors que le violon était l'instrument roi déjà dans la péninsule italienne. Pour ma part, j'étais au concert de mercredi. Moi, j'aime pas forcément tout ce répertoire, mais j'ai fait tout de même de belles découvertes. Anne Gourier est une gambiste vraiment très subtile. Elle était très efficacement accompagnée par Eva Del Campo Cassé et l'orchestre de chambre. Pour vous donner une idée, je propose qu'on écoute tout de suite Anne Gourier jouer du Marin Marais. Je passerai ensuite la parole à mes camarades chroniqueurs parce que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces compositeurs français et italiens qui ont écrit pour la viole de gambe. Nous allons discuter dans quelques minutes. Pour l'instant, on écoute Anne Gourier et Eva Del Campo Cassé interpréter les fameuses Folies d'Espagne de Marin Marais. Folie d'Espagne de Marin Marais, interprétée par Anne Gourier et Eva Del Campo Cassé. Toutes les deux étaient donc mercredi et jeudi avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse pour le programme Marin Marais et la viole de gambe, donné à l'Escale de Tournefeuille. Alors, chers amis, si je vous dis Jean-Ferry Rebel, Antoine Forqueray, Giuseppe Tartini, Marin Marais, qu'est-ce que ça vous inspire? Si tant est d'ailleurs que ça vous inspire quelque chose.
Ah ben oui, ce sont de très grands compositeurs. Jean-Ferry Rebel a écrit une chose complètement incroyable qu'il faut absolument écouter si on ne la connaît pas. C'est l'ouverture de sa suite Les Éléments. C'est le chaos. Vous écoutez ça, vous avez l'impression que ça date d'après Schoenberg à peu près. Hein. C'est un véritable chaos musical et qui s'organise petit à petit. C'est vraiment des couleurs magnifiques et de l'invention et de l'imagination. Quant à Marin Marais, bon évidemment, on le connaît depuis Tous les matins du monde, le film d'Alain Corneau, qui est sorti en 1991, quand même, oui, déjà, date, avec Depardieu, père et fils, Marielle,
Jean-Pierre
etc.
Marielle.
Bon, c'était un film qui a fait beaucoup pour la réputation
de la
vieille.
Qui a fait renaître un peu cet instrument, oui, et cette période de la musique.
Oui, oui. Non, parce qu'il y a de fausses.
Grâce à Jordi Savall aussi.
Il y a de fausses idées sur la viole de gamme n'est pas l'ancêtre du violoncelle.
Non, ce sont des cousins un peu éloignés d'ailleurs.
Hein, oui, oui,
parce
oui.
Parce que c'est pas du tout la même technique.
Hein. Non. La viole de gamme n'est pas du tout le même instrument. D'abord, il n'a pas le même nombre de cordes. Les violoncelles ont 4 cordes. La viole en a 6, parfois 7. Certaines violes ont 7 cordes. Évidemment, des cordes en boyau, et puis ils n'ont pas de pique, comme le violoncelle baroque d'ailleurs. Et il y a eu longtemps une sorte de concurrence, de guerre entre la famille des violons et la famille des violes, puisqu'il y a toute une famille de violes, depuis la viola da braccio, qui est la petite viole, jusqu'à la contrebasse de viole, qui est l'équivalent de la contrebasse à 4 cordes actuelle. Donc, il y a eu vraiment cette lutte entre les deux, mais qui a donné lieu à des œuvres tout à fait magnifiques, hein, puisque chacun, défendant son propre patrimoine, a tenu à composer des œuvres virtuoses et expressives.
Alors, c'est intéressant ce que vous disiez, le violoncelle et viol de gamme, parce qu'il se trouve qu'Anne Gorier, à la base, est une violoncelliste.
Absolument, elle a été pendant des années.
Formidable violoncelliste, qui était celle de l'orchestre de chambre pendant très longtemps.
Voilà, c'est la première violoncelle de l'orchestre de chambre.
Et donc, elle s'est mise à la viol de gamme.
Oui.
Et justement, Gilles Colliard, hier, avant le concert, a bien expliqué que, bon, même si ces instruments comme ça peuvent avoir l'air très, très proches, c'est pas du tout la même technique.
Pas du
tout.
Et
que passer du violoncelle à la viol de gamme, ça va pas de soi.
Non, exactement. La viole de gamme a des frettes comme une guitare. Hein. Le violoncelle, non, on fait sa propre note. Donc, c'est très différent. La sonorité est très différente et la virtuosité est très différente.
Alors, ce qui était intéressant hier, c'est qu'il mettait en regard la musique italienne et la musique française de la même période. Donc, je l'ai dit, hein, grosso modo, fin 17e, fin du baroque et tout début de la période classique, pour nous dire que chez Vivaldi ou d'autres compositeurs italiens de cette période, c'était déjà le violon. Vivaldi d'ailleurs était un violoniste virtuose. Alors qu'en France, on résistait, on continuait à composer pour la viole de gamme, jusqu'à ce qu'à un moment il y a eu un point de bascule. Quoi.
Oui. La viole de gamme a été un peu oubliée après, et effectivement. Oui. Mais c'est un instrument tout à fait séduisant. Oui.
Alors, les compositeurs dont on a parlé, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots, vous êtes Rebel.
Ah, Rebel, donc Jean-Ferry Rebel, hein, c'est 1666-1747. Donc là, en l'occurrence, l'œuvre qui était au programme était Les Caractères de la danse. C'est vraiment un beau compositeur, hein, original, astucieux. Et puis il y a évidemment Forqueray et Marin Marais, bon, les deux rivaux en quelque sorte.
Oui, parce que Gilles Colliard, en les présentant, a dit qu'à l'époque, Marin Marais, c'était l'ange de la viole, alors que Forqueray, c'était le diable de la viole. Je n'ai pas compris pourquoi.
Je pense que Forqueray était un adepte de la grande virtuosité. Alors, ça fait penser à Paganini, qui était le diable du violon. Hein. Donc, peut-être...
C'était injouable, on va dire que ça serait injouable pour un gambiste.
Quasiment.
En tout cas, Anne Corrier, elle s'est très, très bien débrouillée. Et puis, au programme, il y avait aussi... Tartini et Vivaldi côté italien. Voilà. Et puis il y avait le Chevalier de Saint-Georges.
Ah, voilà.
Qui lui arrivait là, parce que lui il n'est plus vraiment dans la période baroque. On est déjà.
Ah non. Il a duré, il est mort après la mort de Mozart.
Oui,
hein, donc,
et d'ailleurs, quand on entend sa musique, il y a une certaine parenté avec celle de Mozart.
Tout à fait.
On l'appelait le Mozart noir d'ailleurs.
Oui, c'était un mulâtre donc. Une figure de l'émancipation des esclaves, hein. C'était en même temps politique, hein. Et un homme est soi-disant un grand séducteur, donc qui a eu beaucoup de succès auprès de ses
entre autres, il aurait eu une relation avec Olympe de Gouges, pour parler d'une figure de notre région.
Ah oui, tout à fait, oui. Donc, c'était...
Et violoniste virtuose, paraît-il. Aussi,
exactement, qui a eu beaucoup de célébrités à son époque. Il s'appelait en fait Joseph Bologne de Saint-Georges.
Effectivement.
On l'appelle Chevalier.
Mais sa musique, moi je trouve, n'est pas désagréable du tout.
Ah non,
ce que j'ai entendu hier, moi...
Belle musique. Bon, il y a eu énormément de compositeurs qui ont disparu, hein, à l'époque. Bah, lui, on n'en a pas entendu parler pendant des années et des siècles.
Ouais, il a ressurgi un peu.
Il a ressurgi récemment.
Alors, j'ai posé une question au début. Serge, avec enthousiasme, se dit, moi, j'aime la viole de gamme, mais qu'est-ce qu'il en est d'Emmanuel Sirat et de Robert Pénavert, qui me regardent d'un air dubitatif.
Moi, j'aime beaucoup la viole de gamme, mais C'est pas du tout mon répertoire, pas du tout mon domaine, donc...
Oui, donc, voilà. On comprend votre silence jusqu'alors, et Robert ?
Oui, alors, moi également, d'ailleurs, il y a quelque chose, le répertoire tel que vient de le décrire Serge, évidemment, qui est une véritable encyclopédie en matière musicale. Bon, je suis loin d'avoir une pareille étendue de connaissances, mais j'ai eu la chance d'écouter des gens comme Kouichken, comme Saval et d'autres, et je dois dire que le son de la viole de gambe a le pouvoir de m'amener vraiment vers l'époque de la création des œuvres, hein, parce que c'est un son complètement fascinant. Voilà.
Oui, oui.
Alors, je ne dis pas que je passerai la soirée à écouter la viole de gambe, mais je dois dire que c'est toujours un moment de grand bonheur.
Alors, on va rester là pour les viols de gambe et le baroque français-italien. Fin de la première partie de cette émission. Dans une minute, nous nous retrouvons avec Emmanuel Sirat pour évoquer le prochain festival Musique au Palais qui a donc lieu le week-end des 25 et 26 novembre au Palais Niel à Toulouse avec un très joli programme que nous allons vous présenter dans le détail. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et La Voix du Midi, Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31, Les Journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et notre invité du jour, Emmanuelle Sirat, fondatrice et directrice artistique du festival Musique au Palais.
Mélomanie, l'agenda.
Et dans l'agenda, il faut noter dès maintenant la troisième édition de Musique au Palais qui se tient donc cette année le week-end du 25-26 novembre au Palais Niel. Vous avez jusqu'au 22 novembre pour réserver vos places et c'est obligatoire. Nous allons vous expliquer pourquoi, parce que ce festival, c'est avant tout de la musique bien sûr, mais c'est aussi un lieu et pas n'importe lequel. Ce Palais Niel situé pas très loin du Grand Rond à Toulouse et qu'on a plus souvent l'occasion d'admirer de loin que de près. Emmanuel Sirat, pour ceux qui connaissent mal ce bâtiment, voire pas du tout, est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire pourquoi il n'est pas possible de le visiter, sauf circonstances très particulières, comme par exemple le festival Musique au Palais ?
Alors, le Palais Niel, c'est un site militaire qui appartient donc à l'armée de terre et aux paras, qui est situé dans le quartier Saint-Étienne à Toulouse, au Grand Rond, où siège le général.
Alors, je crois que c'est un peu une espèce d'état-major pour la région. Ouais. Hein, il y a le 11e régiment de parachutistes. Bon, bâtiment néoclassique, on peut dire, je crois, à peu près la période, avec un parc magnifique. Et donc, pourquoi on ne peut pas le visiter ? Bah, tout simplement parce que c'est l'armée. Donc, on ne rentre pas là-dedans comme dans un moulin.
On ne rentre pas sur ce site militaire n'importe quoi.
Sauf quand, n'importe comment. Sauf pour les journées du patrimoine.
Voilà, et pour le festival Musique au Palais qui a lieu tous les ans.
Et donc, ça explique ce que je disais tout à l'heure. Il faut réserver sa place parce qu'on ne pourra pas prendre les places au dernier moment, arriver à la grille et dire, voilà, je voudrais entrer pour assister au concert.
Tout à fait. Je suis obligée de donner un listing des gens qui vont rentrer. Donc, le 22 novembre, la billetterie sera close.
Voilà. Et puis donc, en même temps que les concerts, en même temps que la musique, vous pourrez profiter de l'esthétique du bâtiment. Mais même entre les concerts, vous pourrez vous promener dans le parc, qui est magnifique, et voir vraiment le bâtiment sous toutes ses façades, sous toutes ses coutures. Et ce parc où il est vraiment très, très agréable de déambuler. On va parler du programme maintenant de ce festival, de ce troisième festival. Comment vous les construisez, vos programmes ? Je crois que chaque année, il y a deux grandes thématiques.
J'ai choisi un thème par après-midi, donc un thème pour le samedi après-midi, un thème pour le dimanche après-midi, avec trois, voire quatre, puisque l'année dernière, nous avions eu quatre concerts le dimanche. Donc, trois parties. La première année, on avait fait la musique française et l'Espagne. L'année dernière, Bach, Mozart, Beethoven et la Russie. Et cette année, la musique de style romantique, de compositeur romantique. Et le lendemain, un voyage en Europe de l'Est.
Alors, il y a deux après-midi, en fait, c'est sur deux après-midi, entre 14h et 20h, le samedi et le dimanche, trois concerts, trois tranches de concerts, hein, 14-16, 16-18 et 18-20h. Donc, c'est quand même très dense. On peut n'assister qu'à un concert sur les trois, on n'est pas obligé d'assister aux trois.
Oui, bien sûr, on peut assister qu'à un seul concert, à celui de 14h, celui de 16h ou celui de 18h, qui dure à peu près une heure et demie par concert.
Voilà, alors si on rentre un peu dans le détail du programme de cette troisième édition, vous l'avez dit, donc c'est les romantiques allemands, pas seulement, hein, qui sont au programme. Quelles grandes œuvres sont prévues cette année? Vous pouvez peut-être en citer déjà quelques-unes, notamment il y a Schubert qui est beaucoup à l'honneur.
Voilà, tout à fait. Schubert, qui sera interprété par le déjà célèbre trio Zadig. Schubert qui rappelle le romantisme dans toute sa splendeur. On a Schumann aussi, le Carnaval opus 9. Puis Chopin, bien sûr.
Et Brahms, je crois aussi.
Brahms, pour terminer.
Alors, une des particularités de ce festival, outre le lieu, c'est qu'il a un concept qui réunit des grands amateurs, de jeunes musiciens de venir et vraiment de grands professionnels, qui à ma connaissance est assez rare quand même, des Serge Chosy. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des concepts de ce genre ailleurs? Moi je ne crois pas.
Non, ce qui se fait depuis quelques années, c'est la fondation de formation symphonique qui mélange des musiciens professionnels et amateurs. Oui, ça oui.
Et on a ça à Toulouse d'ailleurs.
On a ça à Toulouse, à plusieurs des formations récemment fondées. Donc ça c'est courant. Mais un festival qui mêle à la fois grands amateurs professionnels et jeunes comme ça, non, je crois que c'est assez rare.
Robert Pélévert.
Oui, je crois qu'également le festival de la Vézère, qui n'est pas très loin de Toulouse, puisqu'il est à côté de Brive, procède également de cette façon-là pour un certain nombre de soirées.
Les grands amateurs que vous avez au programme cette année, qu'est-ce qu'on appelle grands amateurs d'ailleurs?
Ce sont tous des musiciens qui aiment la scène, qui ont une passion pour la musique et leur instrument, et qui ont tous un métier, une profession à côté.
Ça veut dire que c'est des gens qui, s'ils n'avaient pas choisi une certaine voie professionnelle, auraient peut-être pu persévérer et eux-mêmes devenir des professionnels?
Certainement.
Oui, c'est ce qui m'avait semblé lorsque j'assistais l'an dernier au festival. Vous pouvez peut-être en citer quelques-uns parmi ces grands amateurs qui vont se produire à l'occasion de cette troisième édition et puis nous dire quelles œuvres ils vont interpréter.
Alors, on a Claire Rocher, qui est professeure de mathématiques sur Toulouse, qui va interpréter les variations sérieuses de Mendelssohn. Ariel Sira, qui est directeur de l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse, qui va interpréter le carnaval de Schumann. Nous avons également Pascal Roy, qui est professeur de biostatistique à la faculté de médecine de Lyon, qui va accompagner la violoncelliste Eva Miechnikowska dans du Glazounov et puis surtout dans la sonate pour violoncelle de Brahms. Jean-Marc Kérésit, Jean-Pierre Salmona, qui est cardiologue.
Pianiste, lui, je crois,
Jean-Pierre Salmona, qui est pianiste.
Qu'est-ce qu'il va jouer? Alors, lui, j'ai vu qu'il joue une barcarolle et fantaisie de Chopin.
Jean-Marc Kérésit dans la deuxième sonate pour violon de Grieg et le lendemain, qui jouera aussi du Janáček.
Et puis, alors, j'ai vu qu'il y avait le voyage d'hiver. Il y a une Schubertiade à 16h le samedi, Schubertiade. Alors là, il y a vraiment un programme exceptionnel, je trouve. D'abord, il y a le voyage d'hiver. Qui va interpréter le voyage d'hiver?
Non, c'est pas l'intégrale du voyage d'hiver.
Non, bien entendu, ce sont, excusez-moi, oui, des extraits du voyage d'hiver.
Les quatre premiers leaders,
voilà,
hein, c'est ça.
Voilà, les quatre premiers du voyage d'hiver. Anne-Florence Viala, qui est professeure de chant et musicothérapeute, soprano, qui va nous interpréter donc ces leaders, accompagnée par un jeune pianiste, professeur également, Tancred de l'Homme.
Oui, qui a un très joli nom, Tancred de l'Homme. Ça m'avait frappé lorsque j'ai lu le programme. Au programme également de cette Schubertiade, Klavierstücke D946, interprété par un pianiste.
Alors, Aravane Sadeghipour, c'est une jeune pianiste. Et qui est iranienne et qui étudie à l'Académie musicale de Berlin, au Schule, qui vient spécialement pour jouer ce samedi. Et on la retrouvera également le dimanche dans le trio Domki de Dvorak.
Et puis, dernier morceau qu'on écoutera à l'occasion de cette Schubertiade, et c'est pas rien, c'est le fameux trio numéro 2, opus 100 de Schubert. Pour les cinéphiles, et c'est pas à Robert Pénavert que je vais apprendre ça, c'est celui qu'on entend pendant Barry Lyndon, le film de Stanley Kubrick avec Ryan O'Neill. Qui va l'interpréter, ce trio opus 100?
Alors, le trio Zadig, Marc Girard Garcia, Boris Borgolotto et Yann Barber, qui sont tous les trois de très très grands musiciens et qui iront très très loin.
Là, on parle vraiment de professionnels. Là,
absolument, ils se produisaient déjà au cours du festival de l'année dernière. Ça a été un des grands moments du festival. Ouais. C'est vraiment trois jeunes musiciens qui joue avec une cohésion, une intensité extraordinaire. Non, c'est un grand
Il y a quelques semaines à Saint-Pierre-des-Cuisines et c'était formidable. Bon, on a parlé des grands amateurs, on insistera un peu plus tout à l'heure sur les professionnels et je voudrais qu'on écoute certains d'entre eux. J'ai un extrait de la deuxième sonate pour violon et piano, opus 13 de Grieg, interprété, et vous l'avez cité, par Jean-Marc Hérissit au violon et Ferruccio Amelotti au piano. La sonate pour violon numéro 2 de Grieg, interprétée par Jean-Marc Hérissit et Ferruccio Amelotti, donc deux des grands amateurs qui se produiront lors de la troisième édition du Festival Musique au Palais. Et on va parler des professionnels, on a parlé du trio Zadig, il y en a d'autres. Par exemple, Pierre Hamel.
Oui, alors...
Qui est Pierre Hamel?
Pierre Hamel, que je remercie infiniment de venir spécialement pour nous, qui est le violon solo de l'Orchestre Colonne, dirigé par Monsieur Petit Girard. Et depuis plus de 30 ans, Pierre Hamel se produit régulièrement en sonate, en formation de chambre, en soliste, dans un répertoire alliant du baroque à nos jours. Et je le remercie infiniment d'être là pour nous.
Lui, il va jouer, alors il joue les danses hongroises de Brahms. Non, je me trompe, je dis n'importe quoi. La sonate numéro 1 pour violon de Bartok, je m'étais trompé dans le programme.
Voilà.
La sonate pour violon de Bartok, bien entendu, accompagnée
par Ariel Syrah.
Au piano. Alors ça, c'est dans le programme du dimanche, donc c'est à 18h le dimanche 26 novembre. Et là, c'est un programme, un voyage en Europe de l'Est, l'intitulé. Qu'est-ce qu'on y trouve? Outre ces Slaves et Tziganes, sonate numéro 1 pour violon de Bartok.
Alors déjà, en première partie, toutes ces traditions folkloriques, donc des rhapsodies, avec Bartok, avec la sonate de Janáček, le trio Dumky de Dvorak, qui sera interprété par trois jeunes gens qui viennent de l'Académie de Berlin, justement, David Strangin, Roman Montumi et Aravan Sadobiklipour, qu'on a entendu la veille. Ensuite, toute la partie Balkan et Klezmer, puisqu'on va avoir d'abord des danses hongroises, donc Brahms, on ne peut pas parler de l'Europe de l'Est sans Brahms et ses danses hongroises. L'improvisation ensuite autour de la musique klezmer et yiddish. Jean-Pierre Cohen au piano, Jacques Bielfeld au violon et André Antibi, chant, guitare et puis d'autres instruments aussi, ça sera la surprise.
Alors il y a une autre grande musicienne qui se produit lors de cette troisième édition, grande musicienne qui appartient à un grand orchestre. Je vais vous laisser prononcer son nom parce que c'est un nom polonais que je vais sans doute écorcher. Elle joue le samedi, la partie à 18h, entre 18h et 20h, intitulée Les Grands Romantiques. Elle jouera en dernier un nocturne pour violoncelle de Tchaïkovski et elle s'appelle Eva
Miechnikowska. C'est une amie très chère et je remercie aussi Eva d'être parmi nous pour ce festival. festival. Elle est titulaire d'un CA, d'enseignement de violoncelle, et surtout, elle est premier violoncelle de l'Opéra National de Lyon.
Et donc, elle était déjà venue, je crois, c'est pas la première année.
Elle était venue en 2015, où elle avait joué la sonate de Debussy.
Puis alors, comme à chaque édition, il y a des vedettes, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas les têtes d'affiche. L'an dernier, c'était la pianiste Dana Ciocarli, pianiste roumaine. Et bien cette année, il y a encore une roumaine qui est en tête d'affiche, mais on la connaît bien à Toulouse parce qu'elle y vit depuis longtemps. C'est la violoniste Clara Tchernat, qui sera évidemment avec son inséparable compagnon, son mari, le pianiste et compositeur Thierry Huillet. Ça sera le bouquet final. Ils vont se produire à 18h le dimanche 26 novembre. Ce seront les derniers donc à se produire pour cette troisième édition. Alors, il y a un programme très dense, vraiment beaucoup de choses.
Oui, alors un programme assez varié, mais qui reste dans le thème d'Europe de l'Est. Clara connaît bien cette musique, puisqu'elle est elle-même roumaine. Donc on aura Smetana, From My Homeland, on aura les airs dans le genre roumain d'Enesco, la ballade de Porumbescu, Montig Zardas, bien sûr, Ravel Tzigane, et puis surtout une pièce du compositeur Thierry Huillet. On a vraiment la chance de l'entendre par lui-même ce soir-là, le rat des villes et le rat des champs.
Oui, Thierry Huillet qui aime beaucoup composer sur des poèmes ou sur des haïkus.
Des haïkus, oui, il a fait toute une série de haïkus, très courts évidemment, puisque c'est la définition même de ses poèmes. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une série d'œuvres qu'il a composées sur les fables de La Fontaine. Et ce rat des villes et le rat des champs, j'avoue que je suis très intéressé par entendre cette musique pleine d'esprit, écrite évidemment pour violon-piano, donc pour son épouse et lui-même.
Voilà, il y a Enesco évidemment, parce que quand Clara Tchernat se produit quelque part, en général, Enesco n'est pas loin. Compositeur, le grand compositeur roumain, Enesco. Hein.
Très lié à la France.
Et très lié à la France, comme beaucoup d'artistes roumains, oui. D'ailleurs. Hein. Il y a vraiment des liens très forts entre ces pays, hein, dans le domaine des arts, entre autres. Je propose qu'on écoute une des œuvres que joueront Thierry Huillet et Clara Tchernat le 26 novembre. Bon, il y en a beaucoup qui sont très belles. Hein. J'en ai choisi une. J'ai choisi la Xardas de Monti, interprétée bien sûr par Thierry Huillet et Clara Tchernat. La Xardas de Vittorio Monti, interprétée par Clara Tchernat au violon et Thierry Huillet au piano. Donc une des œuvres qu'ils vont jouer le dimanche 26 novembre au Festival de Musique au Palais. Ça sera entre 18h et 20h pour l'ultime concert de cette troisième édition. Alors je voulais aussi dire que tous ces concerts, tous ces programmes, ces œuvres sont présentés.
Oui, tout à fait. Ils seront présentés avant chaque partie. On aura une belle présentation des œuvres et des compositeurs. Et d'ailleurs, Monsieur Loyal est à côté de moi, il va en parler mieux que moi.
Monsieur Loyal, c'est Serge Chosy, qui fait le modeste, mais qui va quand même nous dire quelques mots sur ce qu'il va faire pour cette troisième édition. Et alors, comment vous allez les présenter, ces œuvres? Les remettre dans leur contexte historique?
Oui, surtout, dire quelques mots quand même sur les compositeurs. Bon, c'est important de dire que Schumann, d'écrire un peu ce qui est arrivé ce pauvre Robert Schumann, ou parler de Schubert, des grands romantiques de Chopin, etc. Et puis donner quelques pistes pour les œuvres en question, pour que les auditeurs, les spectateurs qui sont présents et qui ne connaissent pas du tout, aient un petit moyen, un petit jeu de pistes qui leur permettent d'apprécier à sa juste valeur les œuvres qui leur sont données.
Et puis je sais que vous faites ça très bien, c'est pour ça qu'on vous a sollicité d'ailleurs, y compris dans cette émission. Emmanuel Sierra, aussi un mot sur le fait que ce partenariat avec l'armée, qui donc vous permettent d'organiser ce festival dans leur bâtiment du Palais Niel. Il y a aussi derrière des fonds qui vont être recueillis pour des associations. Quelles associations ?
Tout à fait. Donc, on ne pouvait pas nous accueillir dans ce lieu magnifique sans que nous, on fasse un petit quelque chose. Voilà, une contrepartie. Donc, les recettes de ce festival iront intégralement aux associations caritatives militaires Terre Fraternité et Entraide Parachutiste. Ces deux associations contribuent à l'accompagnement des blessés, de leurs proches, ainsi que des familles des morts en service de l'armée de terre et des parachutistes. D'ailleurs, le général Jacobs, d'Entraide Parachutiste, mène un magnifique combat pour que les blessés en service ne soient plus de grands oubliés en France.
Voilà, donc c'est aussi ce festival l'occasion, bien sûr, d'écouter de la belle musique dans un très beau lieu, mais aussi de faire un geste pour ces militaires qui ont été blessés lors d'opérations pour notre sécurité. Je le disais, il faut absolument réserver, on ne peut pas se présenter à la grille comme ça le jour J. Comment on réserve ?
Alors, on peut réserver via le site internet, donc www.musicopalais.org, l'onglet « Acheter vos places ». On tombe directement sur la billetterie en ligne ou bien par mail musicopalais@gmail.com.
C'est assez simple, finalement. Ce qu'il faut surtout, c'est bien se connecter au site Musicopalais. Je propose qu'on écoute encore une des œuvres qui sera interprétée lors de ce festival. J'en ai parlé tout à l'heure. Elle sera interprétée par le trio Zadig. Mais là, on va écouter une version par le trio Wanderer, qui va d'ailleurs se produire ce lundi 13 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est le fameux trio numéro 2, opus 100 de Schubert, celui qu'on entend dans Barry Lyndon. Et si ça vous dit rien, vous allez voir dès les premières notes, vous allez tout de suite resituer la chose. Thank you. trio numéro 2 opus 100 de Schubert, interprété par le trio Wanderer. Ce fameux trio est au programme de Musique au Palais. C'est le trio Zadig qui va l'interpréter le samedi 25 novembre lors de la Schubertia donnée entre 16h et 18h. Et concernant le trio Wanderer, comme je vous le disais tout à l'heure, je signale qu'il donne un très beau concert ce lundi 13 novembre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec au programme le trio pour piano, violoncelle et violoncelle numéro 1 opus 99. C'est celui juste avant le numéro 2 opus 100 que nous venons d'entendre de Schubert, et le trio pour piano, violon et violoncelle opus 50 de Tchaïkovski. Ce concert est intitulé Le Bel Âge. Il célèbre les 30 ans de la création du trio Wanderer et il est organisé par la Maison des droits des enfants et des jeunes de Toulouse, une association qui fait de l'excellent travail et que je vous invite vivement à soutenir en assistant à ce très beau concert. Dans l'agenda de la semaine prochaine, il y a aussi le spectacle musical du pianiste Pascal Amoyel à Audi-Sud ce dimanche 12 novembre à 17h. Le jour où j'ai rencontré Franz Liszt, c'est le titre. Pascal Amoyel, on le sait, est un excellent pianiste, mais ce qu'on ne savait pas forcément, c'est qu'il s'est révélé aussi excellent comédien dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de biopic musico-théâtral. Et Robert Pénavert voulait nous dire un mot sur ce spectacle.
Effectivement, merci de souligner, le 12 novembre, donc à 17h, dans la grande salle d'Audi-Sud, Pascal Amoyel, que nous connaissons évidemment en tant que pianiste virtuose, en fait se rêvait jeune, se rêvait prestidigitateur. Il rêvait en définitive de faire de la scène. Et là, il nous fait un one-man show, mais absolument extraordinaire, rempli de musique, plein de poésie, plein de générosité. C'est un spectacle qui tourne maintenant depuis près de 2 ans.
Et il l'a donné à Avignon.
Il l'a donné dans le Hof d'Avignon.
Absolument.
Et il l'a donné à Paris dans de nombreuses salles. Et c'est un spectacle magique pour découvrir, comme il dit, son Franz Liszt, évidemment. Et il joue de nombreuses pièces, pas simplement de Franz Liszt, il joue du Mozart, il joue du Tcherny, il joue du Wagner, il joue du Chopin. Et il joue des improvisations, évidemment, qui lui sont dues. Mais c'est vraiment un spectacle à voir.
Oui. Et puis on apprend énormément de choses sur Liszt, hein, qui est un personnage fabuleux. Fabuleux.
Oui.
On se rend pas compte, mais à l'époque, c'était l'équivalent d'une rock star aujourd'hui. Hein.
Oui, oui, et puis il faut pas oublier, c'est lui qui a inventé le principe du récital.
Une des choses qu'on apprend dans ce spectacle, si on ne le savait pas avant.
Et qui a donné un récital à Toulouse, d'ailleurs.
Franz Liszt,
qui est venu à Toulouse, qui a donné un récital pour les personnalités, un récital payé très cher. Et quand il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens pauvres, des ouvriers qui auraient bien aimé y assister, eh bien, il a programmé immédiatement un deuxième récital gratuit pour les entre guillemets, les pauvres de la ville.
En plus, il avait du cœur, oui. Bon, donc, le spectacle de Pascal Amoyel, le jour où j'ai rencontré Franz Liszt, c'est à Audi-Sud, ce dimanche 12 novembre à 17h. N'hésitez pas à y aller. Et puis, alors, la semaine prochaine, c'est aussi le début des représentations de la Rondinée, l'opéra de Giacomo Puccini au Théâtre du Capitole. La première a lieu vendredi 17 novembre à 20h. Il y a encore 4 autres séances jusqu'au 26 novembre. Dans la fosse, évidemment, l'Orchestre National du Capitole, dirigé cette fois-ci par Paolo Arrivabeni. Et pour le reste de la distribution, la mise en scène, l'argument et tutti quanti, je vais encore me tourner vers Robert Pénavert, qui, j'en suis certain, a 1000 choses à nous dire sur cette rondinée, cette hirondelle de Puccini.
1001 choses.
1001, bon allez.
Voilà, non, on ne va pas compter. Alors en fait, juste dans quelles conditions se trouve Puccini au moment de la composition de cet opéra. En fait, ce qu'on appelle les grands chefs-d'œuvre pucciniens sont derrière, hein, Bohème, Tosca, Butterfly. Il rentre des États-Unis où il vient de donner la Fanciulla dell'Ouest. Et comme tous les compositeurs d'opéra, vous savez, leur problème, c'était de trouver un livret. Alors, à cette époque-là, il se rapproche de Gabriele D'Annunzio. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et puis, il fait un voyage à Vienne pour assister à la première représentation de la Fanciulla à Vienne. Et c'est là qu'il rencontre les directeurs du Karl Theater de Vienne qui lui demande une opérette. Alors évidemment, Puccini ne sait pas trop faire ça. Il dit oui, mais il n'y aura pas de récit parlé, parce que ça, je ne sais pas le faire. Malgré tout, on lui propose 2 livrets, et dans les 2 livrets, il y a la rondinée. Donc il choisit celui-ci. Et puis, il y a un livret qui est écrit, qui est traduit en italien. Et puis là-dessus, nous sommes en 17, c'est la guerre. Et l'Autriche et l'Italie ne sont pas dans le même camp. Et donc le contrat est rompu. Puccini se retrouve avec cette œuvre qu'il compose et qui finalement sera créée en zone neutre à Monte-Carlo en 1917. sans succès aucun d'ailleurs. Et pourtant, malgré tout, il y avait dans la distribution un jeune ténor de 28 ans, Tito Skipa, qui allait évidemment faire parler de lui et qui déjà était un ténor extrêmement célèbre. Mais là, pour l'heure, bon, très clairement, cet opéra ne fonctionne pas et Puccini va le reprendre. Une fois, ça ne marche pas davantage, il reprend une troisième fois. Alors pour l'anecdote, lors de cette troisième reprise, enfin réécriture, eh bien il modifie considérablement le troisième acte qui, au lieu de se passer comme originellement sur la Côte d'Azur, bah, se passe, c'est pas une blague, hein, bah, se passe à Montauban, à côté de Toulouse. Finalement, cette version-là n'a jamais été représentée et je sais pas du tout à quoi elle devait ressembler, mais peu importe. En fait, c'est la version d'origine qui est donnée et celle qui est donnée au Théâtre du Capitole. Alors évidemment, il y a eu de très grands artistes qui ont voulu chanter cet opéra, en particulier de grandes cantatrices comme Mafalda Favero, comme Anna Moffo. Tebaldi aussi l'a un peu chanté. Aujourd'hui, c'est Angela Goriou qui fait beaucoup parler d'elle dans ce répertoire. Enfin, très clairement, il ne faut pas simplement une chanteuse pour chanter Magda, qui est le rôle de la rondinée, qui est l'hirondelle. Ça veut dire l'hirondelle. Il faut vraiment une tragédienne lyrique. C'est un opéra très difficile. Et c'est un opéra qui ne parle que d'argent, finalement. C'est un opéra sur le renoncement à la vie. Alors évidemment, c'est un opéra qui se démarque de tous les autres opéras. Il n'y a pas de mort à la fin, hein. Et c'est pas le Barbier de Séville malgré tout. Hein. Donc c'est un opéra tragique sans mort, c'est-à-dire il n'y a pas de poignard, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est un opéra, comme le disait dernièrement Nicolas Joël au cours d'un entretien que j'ai eu avec lui, c'est le renoncement à la vie. Finalement, Magda, ben, on peut imaginer que c'est un peu la musette de la bohème qui a vieilli et qui finalement se fait entretenir malgré toutes les envies qu'elle a. Elle court toujours après l'argent. C'est pas une prostituée, entendons-nous bien, c'est ce qu'on appelait une femme entretenue. Voilà, Ruggiero, bon, c'est un autre personnage. Prunier, on pourrait dire, Prunier, c'est le poète, mais c'est un poète qui lui aussi est à la recherche d'argent, de reconnaissance. Et bon, on pourrait dire que c'est le Rodolphe de la Bohème qui a vieilli et qui n'a pas fonctionné dans sa vie et qui traite très mal d'ailleurs une jeune femme qui a beaucoup d'estime et plus que ça. Pour lui, voilà, c'est vraiment un drôle d'opéra. Alors, les chefs d'orchestre adorent diriger la rondinée. Ils disent qu'il y a une invention mélodique absolument extraordinaire. Vous savez, dans cet opéra, il y a évidemment toute la verve donc mélodique de Puccini, mais également, il y a des thèmes de valse, des thèmes de foxtrot qui étaient très à la mode
à cette époque-là.
C'est ce qu'on appelait un peu la musique liberty avec un Y à la fin, parce que Puccini rentre de la Fanciulla dell'Ouest, il rentre des États-Unis, il sait qu'il se fait plein d'autres choses en matière musicale. Voilà. Cela dit, bon, il y a également de grands musicologues qui considèrent que ce n'est pas un chef-d'œuvre méconnu. S'il est méconnu, c'est qu'il y a des raisons.
Alors,
d'abord parce qu'il n'est pas connu, premièrement. Hein. Il a été créé en plein au milieu de cette épouvantable horreur qu'a été la guerre de 14-18, comme toutes les guerres d'ailleurs. Et puis voilà. Bon, mais cela dit, moi je persiste à remercier mille fois Nicolas Joël de l'avoir mis au répertoire du Capitole il y a quelques années lors d'une nouvelle production. Et c'est d'ailleurs cette nouvelle production
qui
est reprise cette année, une production très art déco avec ce trio magique hein, qui est pour les décors Ezio Frigerio, pour les costumes son épouse Franca Squarciapino et les magnifiques lumières de Vincenzo Kelly et la mise en scène évidemment de Nicolas Joël parce que c'est lui qui a mis la rondinée au répertoire, comme il a mis un certain nombre de compositeurs dits véristes au programme de l'Opéra de Paris alors qu'il a été directeur.
Alors, il nous reste peu de temps, un mot sur la distribution, les rôles principaux.
Alors, alors c'est d'autant plus important qu'il y a eu deux changements de distribution et pas n'importe lesquels. Et d'abord, le titre, hein, l'hirondelle, puisque c'était Cary Alkema qui avait connu... des représentations au Théâtre du Capitole du bal masqué, un peu difficile, il faut le reconnaître, et qui avait été réengagé en espérant que les choses allaient s'arranger, puis finalement, la chose ne se fait pas. Et c'est une toute jeune cantatrice de 33 ans, elle est russe, et Ekaterina Bakanova, qui vient de chanter ce rôle d'ailleurs, qui vient de le prendre à Florence, avait énormément de succès, qui sera Magda au Théâtre du Capitole. D'ailleurs, il faut dire, nous le disions en off tout à l'heure, c'est quasiment il n'y a que des Russes ou moins des gens d'Europe de l'Est pour chanter cet opéra, ô combien italien, puisque donc nous allons retrouver un ténor ukrainien, Dmytro Popov, pour chanter le rôle du ténor, évidemment, Ruggiero, qui chantait Riccardo de Balmasqué au Capitole il y a 2 ans, et avec quel succès. Nous retrouvons Marius Brenchou, qui reprend le rôle de Prunier, le poète, qui l'avait chanté à Toulouse lors de la création de cette production. Le rôle de Lisette sera chanté par Elena Galitskaya, qui est une Russe de 34 ans. Donc, tout ça, c'est la nouvelle génération. Et le rôle, le méchant rôle, parce qu'il en faut un, évidemment, c'est confié à une clé de fa, bien sûr. C'est un baryton de 35 ans, qui est ukrainien, qui s'appelle Gezi Mishketa, et qui fera ses débuts à Toulouse. Voilà, et je crois que Eric, vous avez dit tout ce qu'il fallait pour la suite.
On en reparlera, bien sûr, de cette randinée dans les prochains numéros. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup à vous trois, Serge Ozy, Robert Pénavert et Emmanuel Sirat, pour votre venue et tous les échanges que nous avons eus au cours de cette émission. Je rappelle que le festival Musique au Palais a lieu le week-end du 25-26 novembre au Palais Niel, avec 2 après-midi de 3 concerts successifs le samedi et le dimanche entre 14h et 20h. Pour le détail du programme, vous pouvez vous connecter au site www.musiqueaupalais.org. Notez qu'il n'est pas possible de retirer des places le jour des concerts et qu'il est impératif de les réserver d'ici le 22 novembre au plus tard. Pour ce faire, là aussi, il faut vous connecter au site du festival et cliquer ensuite sur la rubrique « Achetez vos places ». Pascal Amoyel donne son spectacle le jour où j'ai rencontré Franz Liszt à Audisud, ce dimanche 12 novembre à 17h. Renseignements sur le site www.audisud.com. Le trio Wanderer est en concert ce lundi 13 novembre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec au programme 2 trios de Schubert et de Tchaïkovski, un concert au bénéfice de la Maison des droits des enfants et des jeunes de Toulouse. Vous pouvez acheter et réserver vos places sur le site de l'association www.droit-et-enfant.com. Je signale aussi que l'Orchestre de Chambre Occitania et le Chœur Toulouse-Garonne donnent le Requiem de Mozart à la Chapelle Sainte-Anne vendredi 17 novembre à 20h30, sous la direction de Stéphane Delinca. Ils ont un site web www.orchestre-de-chambre-occitania.com. Et puis donc, la Rondinée, l'opéra de Puccini, est programmée au Théâtre du Capitole du 17 au 26 novembre avec une très belle distribution. La présentation de cette production et toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site du théâtre www.theatreducapitole.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Jules Martin Savy. Vous pouvez bien sûr réécouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Et je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.